Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité le jeudi 13 février dernier les travaux de réhabilitation des homes de l'université de Kinshasa, UNIKIN. C'est une première étape de la descente du chef de l'État dans tous les chantiers retenus dans le cadre du programme de 100 jours. Et il a été annoncé par une autorité des infrastructures que ces travaux, en tout cas dans certaines parties, pourraient prendre fin d'ici à la fin du mois de juin. Entre-temps, l'Observatoire des dépenses publiques estime que pour avancer, les chefs de l'État doivent plutôt diligenter un audit afin de corriger le faible financement du programme et la surfacturation de certaines rubriques. À cela s'ajoute également le plan des trésoreries qui vient d'être publié par les ministères des Finances et juste après, les doutes s'installent encore. Alors, qu'en pensez-vous? Dans cet échange citoyen, pendant 57 minutes, nous tenterons de recueillir vos avis et considérations et même votre lecture citoyenne sur cette affaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Professeur Florimond Mouteba, vous êtes avec nous. Merci d'être venu et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette question qui fait couler d'encre des salives. Aujourd'hui, c'est vrai, plusieurs voix s'élèvent du côté de la société civile pour réclamer l'audit. Et vous avez publié en son temps un rapport détaillé sur les budgets de janvier à septembre 2019 où vous avez eu à mettre quelques propositions pour avancer. Mais pour les cas d'espèce, c'est vrai, à un certain moment, les travaux se sont arrêtés et il y a eu les ras-le-bol de la population et finalement le chef de l'État est allé visiter. Mais vous dites que pour avancer, il va falloir requalifier ou rectifier les budgets, si je peux me parler ainsi, parce qu'il y a un faible financement. Maintenant qu'on parle d'un financement supplémentaire, est-ce que c'est réaliste qu'on arrive d'ici à la fin du mois de juin au résultat?
Bon, moi d'abord je voudrais en quelques minutes dire ceci, c'est que D'abord souligner l'importance du contrôle citoyen. Vous voyez qu'avec les rapports de l'ODEP, ce contrôle s'est élargi même au niveau de la population. On a même vu le parti présidentiel, l'UDPS, s'inscrire dans le cadre de ce contrôle. Et aujourd'hui, même le président de la République est d'accord pour qu'il y ait un audit. Il a même envoyé les dossiers de saut de mouton auprès des institutions judiciaires. Je pense qu'il faut que la population comprenne que le contrôle citoyen est très important. Ce n'est que par la pression que nous pouvons pousser à certaines réformes. Et donc, il ne faut pas hésiter pour ça.
Oui.
Alors, pour venir à ce que vous...
Les faibles financements du programme, la surfacturation de certaines rubriques.
Exact, oui.
Est-ce que vous pouvez, en termes clairs, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui, semble-t-il, a pu retarder même les tables.
La première chose, c'est que le programme de 100 jours ne s'inscrivait pas dans la planification et la programmation qui était faite dans le cadre du budget 2019 et dans le cadre budgétaire à moyen terme de 2019, 2020 et 2021. Donc c'était un programme vraiment en dehors de... qui a même violé la loi, la LOFIP, n'est-ce pas? Alors en plus de cela, qui a nagé dans le manque total de la culture de la planification. Lorsqu'on ne planifie pas et qu'on vague comme ça au hasard...
On navigue à vue,
eh bien ça donne les résultats là. Ça donne ces résultats-là, parce que en ce moment-là, et c'est pour cela que nous disons aujourd'hui, même la cacophonie des chiffres, elle est venue de ça. Vous entendez les ministres de finances donner un chiffre, le directeur de cabinet du président donner un chiffre, le ministre du budget donner le sien, l'ODEP qui a fait son monitoring donner le sien. Vous voyez, la cacophonie vient de cela. Ça n'a pas été planifié, toutes ces choses, ça a été fait comme ça. Alors, est-ce que c'est possible d'arriver finir ces travaux fin juin? Bon, encore une fois, c'est une prévision qui n'est fondée sur rien. Parce que vous savez que tous ces travaux, ces programmes n'ont bénéficié d'aucune étude de faisabilité fiable. Alors quand vous n'avez pas des études techniques, entre autres, pour dire, bon voilà, avec ces études techniques, nous savons que nous pouvons arriver, les délais et d'autant, vous pouvez toujours continuer à rêver en disant non, c'est juin, etc. Et donc c'est au départ, il y a cette faute de fond. Pas de planification, pas de programmation, pas de budgétisation sérieuse, pas de mécanisme de suivi évaluation. Et donc même aujourd'hui, lorsqu'on dit juin, c'est encore des supputations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est, on peut faire les deux. D'abord, peut-être confier donc le programme, les restes du programme, qui n'est pas seulement à Kinshasa, vous savez, le programme de 100 jours est partout.
C'est l'ensemble du pays.
Et partout, il est bloqué. C'est probablement confier ses travaux au gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mêlé à cette gestion-là, des 9 premiers mois. Confier au gouvernement actuel, donner au ministère des Infrastructures le mettre dans son rôle, et entre-temps, faire les audits. Les deux peuvent aller de pair. Parce que si on dit, c'est vrai que nous, notre position était très radicale, c'est de dire audit d'abord, et puis on fait le reste après. Peut-être qu'on peut, comme on va changer de gestionnaire, et qu'on le donne au gouvernement qui n'a pas été mêlé à ce qui s'est passé à la présidence, on peut peut-être trouver une solution médiane, c'est-à-dire que bon, le gouvernement assume la suite et on fait les audits. Et à la suite des audits, on doit pouvoir sanctionner ceux qui sont...
Alors que on ne sait pas qu'est-ce qui expliquerait réellement le financement supplémentaire. Parce que au début, il y avait déjà un montant qui était alloué pour ces travaux.
Ouais.
Et puis on voit quand les travaux bloquent et la population manifeste la grogne, et on annonce un montant supplémentaire de 350 millions.
Sans étude encore préalable. Ouais, c'est ça le problème. C'est pour ça que nous étions dans cette position radicale de dire on arrête tout. Mais bon, maintenant, entre-temps, vous voyez ces programmes, vous avez la circulation est complètement perturbée. Vous savez comme il n'y a pas eu d'études de faisabilité, donc il n'y a même pas eu d'études d'impact environnemental, l'environnement et ces projets ont été faits sans même demander l'avis de la population environnante. Et donc, c'est perturbant. Alors, peut-être pour stopper la perturbation, on peut trouver cette solution médiane. C'est-à-dire, on refait rapidement des études pour voir quel est le montant réel, n'est-ce pas, exact. Parce qu'on ne peut pas le faire comme ça, au pifomètre, comme ça a été fait depuis le début.
Alors, vous proposez un budget rectificatif.
Oui.
Un budget national rectificatif, ouais. Ou bien juste le budget rectificatif pour ces travaux, pour ces programmes.
Bon, il me semble que
parce que si nous prenons la sortie médiatique, par exemple, du ministre des Finances avec les plans des trésoreries, d'aucuns craignent ou redoutent qu'il y ait vraiment des conséquences par la suite.
Mais le ministre des Finances était monsieur sérieux, hein, c'est un technicien qui, depuis qu'il est là, essaye de corriger les erreurs qui ont été commises par les autres. Et quand il nous fait un plan des trésoreries en disant qu'on peut au mieux avec nos régies financières s'attendre à...
Et que notre budget n'est pas
réaliste. Oui, maximum 5 milliards, etc. Oui, il a raison, parce que on s'est réveillé un matin pour dire, voilà, nous devons avoir un budget de 11 milliards. Mais sur quelle base? Vous voyez, sur quelle base? Et donc, maintenant, le ministre des Finances vient de recadrer les choses. Évidemment, le plan des trésoreries, c'est pas le budget. C'est une boussole, c'est un tableau de bord qui permet, en sachant que on ne pourra pas avoir plus de 5 milliards 600 millions, alors on ne peut pas dépenser plus que ça. Et donc, ce que nous espérons, nous, ODEP, d'ailleurs, on voudrait appeler au mois de mars, au retour de la
du Parlement. La session
parlementaire. Ouais, nous voulons appeler à une loi rectificative pour le budget 2020, en tenant compte de la conjoncture et de ce qui a dit le ministre des Finances avec raison, et donc qu'on revienne, qu'on refasse.
Non, quand vous parlez d'une loi rectificative, ouais, tout le monde sait aujourd'hui que notre budget est autour de 11 milliards. Ouais. Et qui prend en compte d'ailleurs tous ces programmes des 100 jours et les programmes à la base pour ouais, donner, ouais, améliorer les infrastructures, améliorer ouais, l'enseignement, améliorer ouais, beaucoup d'autres programmes. Ouais. Mais en réalité, aujourd'hui, quand le plan sort, et on se rend compte que le budget doit être rectifié, absolument, et en réalité, on aura 6 milliards ou 5 milliards, ce qui veut dire on ne sera pas à même d'atteindre l'objectif assigné de donner à la population les meilleurs.
Mais vous savez, ça c'était un peu la faute des experts du ministère du budget. C'est-à-dire que lorsque ils ont fait le budget de 11 milliards, ils se sont basés sur une pression fiscale qu'ils ont appelée une pression fiscale de 14%, jamais réalisée dans notre pays. Au mieux, on a 9%, etc. Et un budget à l'époque de 7 milliards était réaliste, mais bon, on a voulu aller à 11 milliards. Mais c'était fondé sur rien. Et aujourd'hui, le ministre des Finances, qui est un technicien valable, est en train de ramener, en fait, revenir aux positions que l'ODEP avait prises à l'époque avec la société civile. Lorsque nous avions fait l'analyse du budget 2020, on avait dit que c'était pas réaliste. Bon, et voilà, aujourd'hui, on arrive, le ministre des Finances nous donne raison que ce n'est pas réaliste. Et il recadre les choses correctement. Et je pense que maintenant, le problème, c'est il faudra, sur la base de ces données, s'inspirer de ces données pour faire une loi rectificative pour voir, bon, avec le Parlement, est-ce qu'on arrivera à 8 milliards ou est-ce qu'on arrivera, mais qu'on fasse une loi rectificative sur des bases
sérieuses. Et équilibrer les parts allouées aussi.
Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il faudra éviter que dans cette baisse qui sera de 2 milliards ou de 3 milliards, dans cette baisse-là des moyens, qu'on ne fasse pas un budget rectificatif qui va encore donner une part belle aux institutions. C'est-à-dire que dans le budget...
La présidence de la République,
voilà,
le Parlement...
Des institutions, les trains de vie de l'État, un train de vie très élevé de l'État, au détriment des secteurs pauvres. L'éducation, d'ailleurs, avec la gratuité, ça va poser des problèmes.
On va y revenir parce que ces budgets rectificatifs, il faudrait que ça soit vraiment équilibré pour permettre à ce que tous ces projets puissent réussir et qu'on arrive quand même au résultat. Ouais. Il y a des auditeurs qui nous ont rejoints pour participer à cet échange. Ouais. Nous rappelons nos moyens de contact, c'est le 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Oh Mario,
tout le monde sait.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi, la radio de toutes les musiques.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Parole aux auditeurs, aujourd'hui reçoit le coordonnateur de l'ODEP, professeur Florimond Mouteba. Avec lui, nous parlons de ces faibles financements du programme et la surfacturation de certaines rubriques qui pouvaient constituer encore des obstacles pour qu'on arrive finalement à finir des travaux exécutés dans les cadres des 100 jours notamment. Alors avec le plan des trésoreries qui vient d'être publié, d'aucuns redoutent encore que finalement les choses avancent plus vite. Lui, vous êtes à Kikwit, Antoine, vous êtes à Bounia, Olivier, vous êtes également à Kikwit. Lui, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Est-ce que vous pensez qu'il faut confier en ce moment les programmes des 100 jours au gouvernement actuel et de l'autre côté aussi renforcer l'audit pour en tirer des conclusions et afin de rectifier la loi, il faut une loi rectificative pour permettre à ce que tout soit équilibré.
Oui, je suis d'accord avec votre invité, mais je dis ceci. La visite du chef de l'État est une bonne chose sur les chantiers. Mais je me demande si jusqu'à aujourd'hui on doit parler encore du programme des 100 jours du chef de l'État, qui, à mon avis, devait être déjà exécuté. Et si jusqu'en 2020, on continue à parler du programme des 100 jours des chefs de l'État, attend alors l'exécution du programme du gouvernement. Et pourquoi aussi cette visite en retard? Et cela a permis aux gens de détourner les fonds qui étaient alloués à ces travaux. Et cela a vraiment un effet néfaste sur ces travaux-là. Et les réajustements, je dis bien les réajustements urgents de ce budget est vraiment nécessaire pour finaliser dans un bref délai ce programme qui n'a fait que durer.
Merci beaucoup, Louis. Alors Antoine, vous êtes à Bounia. Oui, Antoine, vous êtes à Bounia, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Gilles, vous me recevez?
Oui, allez-y, vous avez la parole.
Oui, Gilles, je vous ai suivi, j'ai suivi aussi l'invité. Eh bien, il peut, bon, vanter le ministre qu'il est bon. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs, qui sont de les cœurs et les reins de l'homme. Donc, il peut bien dire que le budget, que ce soit exorbitant ou non, mais moi, je dis ceci, c'est le problème de la culture JR. Juste pour vous informer, je suis en train même de penser, Dieu voulant, dans mon troisième cycle, je vais faire sur la culture africaine. Nous avons une mauvaise culture JR, dans le sens que quand on sort l'argent comme ça, nous devons prendre conscience pour travailler conscience de notre pays. Vous savez, Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps, une année et demi, il avait dit donner aux Africains beaucoup d'argent comme ça, c'est pour gaspiller. Ils vont les gaspiller. Et les gens l'ont taquiné de tous les mots. Ils ont dit que non, vous avez une mauvaise civilisation, vous prenez des vieilles femmes. Mais il y a le rapport entre prendre des vieilles femmes et bouffer l'argent, de l'État. Vous voyez. Donc, dernièrement aussi, j'avais suivi les problèmes de coopération avec les Belges. Les gens taquinaient les Belges. Les Belges n'ont rien à faire là-bas. Ce sont les Belges maintenant qui viennent nous empêcher de construire. Ils sont des moutons ou de manger notre argent. Donc vous voyez que c'est le problème.
Oui, mais c'est pourquoi Antoine, il y a la société civile qui à son temps avait souligné qu'il s'agissait d'un faible financement qui découlait, qui résultait donc à un manque de planification. En fait, tout n'était pas bien chronogrammé et bien chiffré, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve devant une difficulté de continuer ces programmes. Et qui a donné comme occasion de pouvoir retrouver encore un montant supplémentaire afin d'aider, parce qu'il y a eu des contradictions de part et d'autre des autorités qui sont impliquées dans cette affaire.
C'est ce que j'ai dit, nous avons une mauvaise culture. Qu'est-ce qui prouve que ces sociétés civiles-là parlent la vérité? Nous ne savons pas. C'est pour cela que nous voulons tous entrer dans la danse pour savoir la vérité. Vous savez, nous les Congolais, nous fabriquons beaucoup de choses parce que nous voulons soutirer de l'argent. Nous ne savons pas si c'est la vérité, mais nous avons quand même confiance dans notre président actuel. Quand même, il a sorti l'argent. Mais avec les problèmes qu'il a aussi avec la coalition, on sent qu'il n'est
plus... Oui, Antoine, est-ce que vous avez une idée de l'argent qui était sorti d'abord, la première partie, pour ces travaux? Est-ce que vous avez une idée?
S'il vous plaît.
Est-ce que vous avez une idée de l'argent qui était sorti d'abord pour ces travaux?
Bon, moi, personnellement, je n'ai pas une idée complète de s'il a sorti combien, mais nous savons qu'il a décaissé.
Alors, moi, je vais vous aider avec les tableaux synthèse que j'ai devant moi. Volet route, en tout cas, prenez en compte 26 milliards 47 178 000 dollars. Donc, pour sur 3 ans, je crois. Les francs congolais, pardon, c'est les francs congolais. Et puis les volets ponts, c'est les 11 milliards en francs congolais. Volets BAC, 1 milliard. Et puis entretien et réparation matérielle, ça c'était pas chiffré. Le total c'était 38 milliards 907 millions, je crois, en termes chiffrés. Donc nous supposons que cet argent était sorti.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire, J.S. Cet argent est sorti. Mais pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient? Pourquoi les détourner? C'est ça notre problème, nous, en général, les Africains, spécialement les Congolais. Nous n'avons pas cette conscience-là. Nous avons une mauvaise culture. Nous cherchons toujours à aller là-bas pour bouffer, pour détourner de l'argent. Nous, vous voyez, il y a des problèmes de 15 millions, des problèmes de 200 millions avec la GECAMINE. Si on fait les enquêtes, on va paralyser le pays. Vous voyez tout ça? Vous voyez tout ça? Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour nos générations futures? Parce que nous aimons vraiment notre pays. Moi, j'insiste sur la culture.
Merci beaucoup, Antoine, d'avoir appelé des Bounia. On va prendre Olivier qui est à Kikwit. Olivier, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Gilles, bonjour et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Et quelle est votre réaction, Olivier?
Ok. Gilles, je pense que nous devons commencer par un simple exercice mathématique. Essayer de combiner faire finance. Surfacturation, détournement, rétrocommission, et vous me dites quelle est la résultante. Donc, c'est une catastrophe. Donc, faible placement, rétrocommission. Alors, vous voyez que là, c'est déjà un très mauvais point de départ. Et c'est pour ça que moi, je n'appuie pas l'invité quand il dit qu'il faut réajuster peut-être la loi rectificative. Je crois que ce n'est pas le moment. Avant de penser à une loi rectificative, nous devons d'abord savoir où nous sommes. Qui a fait quoi? Le mal est profond. Il ne faudrait pas qu'on puisse continuer sur des bases incertaines, des bases non très bien définies.
Oui, mais le chef de l'État a déjà autorisé l'audit.
Oui, c'est-à-dire que je pense que ça c'est la première chose. Et le radicalisme dont l'invité a parlé, je pense que ça doit être la position de toute la population. Sinon, nous sommes dictateurs. Ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que nous ne devons pas continuer à encourager le président là où nous voyons très bien qu'il est en train d'aller vers le mal. Et je crois qu'il n'est pas seul, il est induit en erreur par toute une équipe. Et dans cette équipe, moi je prends son propre cabinet. Je me dis, ce cabinet est responsable de beaucoup de choses et nous ne devons pas le cacher. Et donc, la population ne doit pas continuer à appuyer et tout le monde doit parler le même langage.
Oui, mais il ne faut pas faire des accusations gratuites non plus. Parce que si on va tabler sur des chiffres en disant, voilà, telle somme a été déboursée pour tels travaux, et comme nous avons suivi des auteurs qui sont impliqués dans ces programmes, c'est contredire. Tantôt, il y a 50% qui est exécuté sur les financements qui étaient sortis, et les 50 même de ce qui était prévu n'a pas encore été fait. Bon, voilà, il y a toute une confusion dans tout ce qui a été dit. Alors aujourd'hui, l'audit va éclairer là-dessus, mais néanmoins, la population aussi, qu'on appelle un contrôle citoyen, doit faire ce travail en ayant réellement des chiffres.
Oui, JR, pardon, excusez-moi, vous savez le travail du cabinet, le cabinet a le devoir de voir toutes les réactions qui viennent de partout et de dire au président, voilà, dans ce sens, c'est ce que nous devons faire. Donc, le cabinet ne doit pas fermer les yeux. Alors, il y a autre chose, JR. Vous savez, il y a quelques temps, Luzolo Bambi disait qu'il y a des milliards qui sortent par des trous qu'on n'arrive pas à boucher. Et donc, moi je me dis que le budget de 11 milliards, ce n'est pas extraordinaire. Si nous arrivons à boucher tous les trous, et il faut demander à Luzolo Bambi, le trou, tout le monde sait où va l'argent. Si on bouche les trous, on va trouver l'argent. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de budget faible ou de budget irréaliste. Le budget, il est réalisable si tout le monde est sérieux. Alors, revenons maintenant sur les visites. Les visites au campus, pour moi, ce n'est pas une histoire extraordinaire. Il est passé, et moi je me dis que ce chantier-là, ce n'est pas un chantier extraordinaire parce que le pays est par terre, il faut y aller avec méthode. Et pour moi, la première façon, la première chose à faire, c'est arrêter d'abord avec ce qui est en train de le faire, arrêter l'hémorragie et regarder...
Donc, qu'on arrête ces travaux, c'est ça ce que vous voulez dire? Qu'on arrête d'abord ces travaux?
Qu'on arrête et qu'on puisse redéfinir une par une les priorités.
Oui, mais c'est ce qu'a dit l'invité aujourd'hui. Et d'un côté, il y a...
Je vous rappelle que le premier chantier pour le moment à finir, c'est d'abord la gratuité. Je vous dis, JR, ce chantier n'est pas encore fini et nous sommes en train d'entamer les autres. C'est la catastrophe. Nous courons tous vers la catastrophe. Faisons un effort pour encourager et aider le président à reculer. Il n'y a pas de honte à faire marche arrière lorsque on voit qu'on est en face des murs en béton. C'est ça que je vais te dire. Je finis par là. JR, je pense que n'ayons pas honte de reculer. Nous sommes sur une mauvaise piste. Et c'est tout le monde. Et pour le moment, la responsabilité revient au Parlement. L'Assemblée nationale, en mars, doit prendre ses responsabilités si on veut nous sortir de ce gouffre-là. Voilà ce que je veux dire.
Merci beaucoup, Olivier. Alors, on va prendre Victor qui est à Victor Nkolo, au Congo central. Victor, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. Bonjour.
Quelle est votre réaction, Victor?
Oui, je pense que au niveau de la présidence, on doit arrêter avec les improvisations. C'est inimaginable que l'équipe présidentielle, qui est composée des experts, quand Florimond Moutéba dit que il y a eu des improvisations, c'est terrible, parce que c'est une équipe costaud. Donc, je vois très mal comment ils n'ont pas pu faire des études de faisabilité. Et s'ils ont fait des études de faisabilité, le véritable problème, c'est que le président doit faire actionner, il doit actionner la justice.
Mais oui, mais Victor, quand vous parlez de manque d'études de faisabilité, moi je sais que les documents qui nous avaient été remis, reprenant en tout cas la synthèse du programme d'urgence pour les 100 premiers jours du chef de l'État, il y avait toutes les rubriques, les sites, la nature d'intervention, les montants et puis les délais d'exécution, même la date de démarrage et les décaissements. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, on continue encore à brandir l'improvisation?
Oui, mais c'est ça. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas eu improvisation. Seulement, il y a eu cette volonté de pouvoir nuire. Donc, de détourner...
Cette volonté de pouvoir nuire.
Oui, nous pouvoir nuire, cette volonté. Puisque réellement, quand il y a des études de faisabilité, et on sait d'avance où est-ce qu'on va trouver de l'argent. Mais ce n'est pas seulement ça. Donc, au-delà, il faudrait qu'il y ait, comme le dit Florimond, il faut que la population intervienne. Moi, je suis en Banzangungu. Il y a la rue de Gombe-Matadi qui était prévue dans le 100 jours. Mais aujourd'hui, quand il pleut, vous ne pouvez pas arriver en Gombe-Matadi. Donc, vous ne pouvez pas arriver. Donc, qu'est-ce qui a été prévu dans les études de faisabilité pour réhabiliter cette route-là? Alors, le vrai problème que nous avons dans ce pays, vraiment, il faut qu'on soit très sérieux. Le budget sera revu, mais ça aussi, par exemple, il fallait s'y attendre. Nous avons un Parlement. Mais très souvent, le gouvernement va déposer le budget, le projet du budget au Parlement très très tard, de sorte que le parlementaire n'a pas le temps de pénétrer cela. Et le parlementaire doit amener le projet du budget, doit amener ses projets à la base, avant le débat au Parlement. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais le gouvernement s'arrange pour que le budget arrive très tard au Parlement, et les parlementaires, malheureusement, ils acceptent ça comme ça, et ils font ça à la va-vite. Voilà là où nous sommes aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Je vous prends un exemple, Gérard, pour finir.
Oui.
Nous avons des projets ici, deux projets de la Banque mondiale, le PDPC, le pôle de croissance ouest, et le projet donc financé par la Banque mondiale, celui-là, et le projet Papakine financé par FIDA. Ces projets, ce n'est pas l'argent qui vient du trésor congolais, c'est de l'argent qui vient de la Banque mondiale et de FIDA. Mais je vous assure, ces projets, quand ils voient comment ils sont exécutés, il y a le projet Papakine qui nous dit qu'il manque 5 millions de dollars, donc il faudrait qu'il trouve encore 5 millions de dollars. Mais comment on a fait les études? Et le projet de la Banque mondiale, le PDPC Paul Ouest, nous avons des boutures qui ont été produites ici en Voisy, en Colo où je suis, mais on n'a pas pu distribuer ces boutures-là. Qu'est-ce qui manquait? Soi-disant, c'est de l'argent. Donc nous sommes malades dans ce pays. Donc il faut que la justice agisse. Et j'encourage Florimond, mon frère Moteba, je l'encourage encore. Alors, vous parlez de l'éducation. Mais l'éducation, ça ne réussira pas. Macron a proposé, je ne sais pas, 600 millions de dollars au président. Mais ces 600 millions de dollars, c'est dans les CDD. Le CDD, c'est le contrat de développement et le contrat de désendettement et de développement. Cela veut dire, vous vous êtes endetté auprès de la France. Vous n'avez pas pu payer cet argent-là, mais maintenant, moi, France, je vous dis, prenez cet argent-là que vous n'avez pas
merci.
Pu payer.
Merci beaucoup, Victor, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant, bien entendu, les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson, nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Professeur Florimond, nous venons de suivre cette première série des auditeurs. Alors, d'aucuns sont revenus, en tout cas ils ont pu abordé dans le sens que vous avez emprunté au début, c'est-à-dire l'improvisation qui a caractérisé au fait cette initiative de programme des 100 jours.
C'est-à-dire que c'est que pourquoi nous parlons d'improvisation? Parce que les investissements publics ne procède pas d'une volonté d'arriver et puis de dire bon moi je veux faire le saut de mouton, je veux faire... non, les investissements publics, il y a des règles pour faire pour prévoir et mettre en œuvre des investissements publics. Ça passe par une programmation souvent même triennale qui est faite en prenant en compte tous les programmes de tous les ministères et qu'on met ensemble dans le cadre d'un programme d'investissement public national. Et donc, ce programme est souvent triennal. Lui-même, il est accroché à un plan, dans notre cas ici, le PNDS. Il est accroché à un plan national. Et donc, pourquoi? Parce que les projets et les programmes, quand ils vont être mis en œuvre, c'est pour réussir les objectifs du plan, les objectifs du développement définis par le plan. Alors, pourquoi nous parlons d'improvisation? C'est que le budget 2019, la loi de finances 2019 était déjà votée. Et donc, dans cette loi, personne ne peut changer cette loi en y amenant d'autres projets, d'autres programmes qui n'étaient pas prévus par la loi de finances. Il n'y a que le Parlement qui peut changer le budget en recettes comme en dépenses. Même pas par la volonté d'un chef de l'État. Je veux faire ceci, je veux cela, alors que ce n'est pas inscrit dans le budget. Voilà. Et donc c'est pour cela que l'ODEP a beaucoup parlé de un programme extra-budgétaire et pour lequel la loi a été violée, la LOFIP, la loi qui organise l'organisation des finances publiques en RDC. C'est pour ça qu'on parle d'improvisation, parce qu'à ce moment-là, d'où devaient venir les moyens, etc.
Donc si je comprends bien, ces programmes devaient attendre après 2021.
Non, enfin, c'est-à-dire que le président de la République pouvait demander une loi rectificative en mars, par exemple. À défaut de la loi rectificative, il pouvait même agir par les ordonnances. Et donc légaliser les changements éventuels des rubriques dans le budget, de changer le budget. Mais il pouvait faire une loi rectificative en mars.
Mais il y a une certaine jurisprudence. Je suis en train de revoir un fait qui s'était passé d'ailleurs dans ce pays. Oui. Aujourd'hui, l'immeuble intelligent a été, en tout cas, construit. Extra-budgétaire. Et je crois à cette époque-là, c'était un débat qui a alimenté presque toute la presse. On se demandait mais où est-ce que Matata Ponyo a trouvé de l'argent pour construire au moment où on disait qu'il n'y avait pas d'argent pour les élections. Mais pourtant, il y avait une rubrique qui était prévue dans les budgets, les 250 000 millions qui étaient à chaque année qui étaient prévus dans les budgets pour les élections. Mais finalement, on voit un immeuble sortir de la terre, mais avec quel argent?
Mais c'était de la mauvaise gestion. C'était de la mauvaise gestion. Donc l'immeuble a été, on l'a vu, mais c'était fait. La Cour des comptes d'ailleurs a condamné ça. Donc c'était de la mauvaise gestion. Ça, on ne peut pas. Dans la gestion des budgets des années antérieures, à l'époque, l'ODEP a fait aussi pas mal de rapports sur le budget 2016, etc. Bon, peut-être qu'on en a fait un grand bruit, mais toutes ces pratiques. Donc des dépenses imprévues hors budget, etc. existaient déjà. Elles existaient. Et on l'a condamné.
Donc ce n'est pas Félix qui a commencé cela. C'est bon, pas le président.
Disons que lui.
Donc c'est une pratique qui a pris.
Lui, il est venu amplifier. Il est venu amplifier. Et malheureusement, son cabinet ne l'a pas aidé. Son cabinet ne l'a pas vraiment aidé. Et parce que, bon, des hommes comme son directeur de cabinet, c'est un homme qui avait déjà travaillé dans l'appareil
de l'État. Un économiste chevronné, d'ailleurs.
Il a travaillé dans l'appareil de l'État. Il a même été président de l'Assemblée nationale. Il sait très bien qu'on ne peut pas improviser un programme comme celui-là sans qu'il y ait eu une loi rectificative, éventuellement, où on a intégré les nouvelles priorités du chef de l'État.
Est-ce que maintenant, ça devient compliqué avec le plan des trésoreries qui, en fait, indique la situation réelle de notre trésor public, et avec une loi rectificative, est-ce que cela pourrait prendre compte de tous ces travaux?
Bon, je pense que le budget 2020 a intégré certains des projets ici. Mmh. Le budget 2020 l'a intégré. Le problème sera de savoir, parce que le ministre des Finances vient de...
Parce qu'il y a baisse.
Oui, il montre, de 2 milliards il montre jusqu'où on ne peut pas espérer remplir les caisses de l'État avec les recettes donc de nos régies financières, etc. Il montre juste qu'on ne peut pas aller trop loin. C'est un tableau de bord intéressant qui doit nous ramener aux réalités. Parce qu'en fait, le budget 2020 n'était ni réaliste ni crédible. Parce que si on doit aujourd'hui
pourtant c'était tout. Un budget de l'espoir. La population pensait à 11 milliards. Il doit avoir des sauts de moutons. Mmh. Il doit avoir la gratuité de l'enseignement. Oui. Il peut avoir. Mais maintenant là, ça devient compliqué.
Mais ça pose d'ailleurs un problème sérieux des techniciens qui ont fait ces
budgets. Montage. Oui.
Parce que bon, comment induire ainsi le président de la République en erreur avec un budget de 11 milliards? Mais sur quelle base on allait mobiliser ces 11 milliards? C'est vrai. Notre compatriote tout à l'heure qui a rappelé les affirmations de Luzolo Bambi qui étaient fondées.
15 milliards.
15 milliards qu'on perd, oui. Maintenant, pour récupérer ces 15 milliards, il y a des mesures qui étaient prises d'ailleurs depuis Matata. Mais ces mesures qui ne sont pas
d'application.
Voilà, qui ne sont pas d'application. Comment boucher les fuites, comment boucher
empêcher
le coulage de recettes, comment empêcher ça? Il faut punir les gens. Il faut que le président de la République montre les
gens. Qu'après cet audit, que les gens répondent de leurs actes et puis qu'ils soient punis.
Absolument. Il faut qu'il montre l'exemple. Et l'exemple devait venir par déjà le fonctionnement de son propre cabinet. Déjà la manière dont, vous voyez ici, tout le monde et toute la population met en cause. J'ai même vu une vidéo, du directeur de cabinet qui circulait, les gens étaient en train de crier.
Bon, parfois des émotions, des états d'âme.
Voilà. Mais tout ça montre à quel niveau il faut donner l'exemple. Il faut vraiment donner l'exemple d'une gouvernance correcte. Hein, et cela doit venir d'abord du sommet de l'État. Mmh. Et à partir de ce moment-là, on peut punir facilement ceux qui
même là-bas. Voilà, on va poursuivre cette émission avec les auditeurs également. Omar qui est à Kinshasa, Moïse à Goma et Di à Lubumbashi. Omar, vous êtes avec nous. Bonjour, Omar. Omar, vous êtes avec nous? Voilà, Moïse, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Moïse.
Merci beaucoup pour me donner la parole. Moi, vraiment, monsieur le journaliste, je m'inscris à fond contre tout ce que le coordonnateur de l'ODP est en train de dire. Même si tout ce qu'il dit, ce n'est pas mauvais, mais sinon, ce que je constate, il n'y a pas de l'objectivité dans les rapports que les ONG de notre pays publient. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, nous venons d'entendre que non, à Cage, il y a encore des révisions concernant les dossiers d'Albert Yuma, il n'y avait pas de tournement, il y avait ceci, cela. Alors, si c'est seulement cela, je ne sais pas encore, il ne s'est pas encore prononcé, mais la Cage a déjà précipité pour dire non, non, il n'avait pas de tournement, tout ça. Mais si, est-ce seulement si la justice blanchit Albert Yuma, quelle serait maintenant l'attitude d'Albert Yuma ou des Congolais vis-à-vis des ces ONG? En plus de ça, l'ONG a publié un rapport. C'est que moi je constate, monsieur le journaliste, les gens parlent seulement le programme de 100 jours, le programme de 100 jours, on voit seulement des sons de moutons. Oui, ça va, ce n'est pas mauvais. Mais moi j'aimerais poser la question à monsieur le coordonnateur. Est-ce que, après la proclamation des résultats, le président de la République a été élu, a prêté serment, après la présentation de serment, comment est-ce que le président pouvait se comporter? Est-ce que le président ne pouvait pas travailler? Alors qu'on sait, avant que le programme soit mis en place, il y avait au moins 8 à 9 mois qui se sont écoulés sans avoir un gouvernement. Moi, je pense que le programme de 100 jours, c'était un programme salvateur pour notre pays. En plus, le coordonnateur dit que non, le programme là jusqu'à maintenant, c'est la présidence qui continue à gérer. Mais non, c'est faux. C'est au mois de novembre que tous les programmes ont été versés au gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui commence maintenant à gérer tous les programmes. Ce n'est plus la présidence. Alors, ce que moi, j'aimerais encore ajouter un mot, si vous me permettez, monsieur le journaliste. J'aimerais conseiller aux gens de l'Ouest de laisser discours populistes, même s'ils sont des techniciens, je ne sais pas quoi. Parce que j'ai entendu quand l'UDP a fait la ronde à travers la capitale, non, l'UDP a donné le pourcentage de 30% concernant seulement des sauts de moutons. Là, c'était juste un secteur. Et l'UDP a récupéré ça pour demain, l'UDP nous a donné raison. Le président de la République a aussi fait sa ronde. Le président a donné une autre appréciation en disant non, non, tous les travaux en général se remet autour de 70 pour ça, donc le bilan est satisfaisant. C'est pourquoi moi j'aimerais interpeller l'OTEP. Il soit vraiment objectif, qu'il évite des discours populistes, qu'il évite de l'acharnement contre ceci, contre cela. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup Moïse. Merci Moïse d'avoir appelé des Goma et dit vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Et la parole aux auditeurs.
Bonjour joueur, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre contribution, Eddy?
Oui, joueur. En tout cas, moi, je pense que il y a beaucoup de choses à refaire dans notre pays. Ce ne sont pas les hommes qui manquent et ce n'est pas l'argent qui manque dans notre pays. Pour preuve, il y a eu déjà des caissements pour quelque chose en faveur de ce programme de 100 jours. Mais nous nous rendons compte que c'est seulement le même peuple dont on a parlé en mal dans le régime passé. Et ce sont seulement les mêmes personnes qui reviennent. Si pas eux, c'est plutôt leurs frères et leurs cousins qui reviennent. Et en fin de compte, on se retrouve, on est toujours au bas de l'échelle. En fin de compte, on se retrouve, on est en train de se plaindre de ceci ou de cela. Le budget 2020, avant qu'il soit voté à l'Assemblée JR, moi, je ne pense pas que ça ait été fait à la va-vite, et même le programme de 100 jours, comme le dit
notre invité,
notre ami, Odette, justement. Quand je regarde, je repasse les images de l'Assemblée nationale lors du débat sur le vote du budget, je trouve qu'il n'y avait que des gens pour applaudir. Et si j'ai bon nombre d'entre eux qui sont passés à la tribune du Parlement, ils pouvaient dire qu'ils relevaient faille du budget et en fin de compte demander à ce que ce budget-là soit voté. Comment peut-on relever les failles et puis dire à tout le monde, votons à l'unanimité ce budget-là. Donc c'est pour dire que allons avec ces failles-ci, nous allons échouer. C'est ce qui est en train de se passer. La visite du président sur le campus de l'UNIKIN, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais moi, je pense que le mieux, ne cherchons pas à laver le président, je ne l'incrimine pas moi, mais non plus je ne peux pas le laver dans ce qui est en train de se passer autour de lui. Le cabinet, celui qui l'a établi, le gouvernement, c'est lui
qui a nommé
justement le gouvernement. Donc ne cherchons pas à dire qu'il est sain ou il est fautif. Non, lui aussi, il est dans le même sac de tous ces gens-là qui sont en train de vilipender le pays. Moi, je trouve qu'on peut revenir en arrière et essayer de voir sur quelle base maintenant nous pouvons repartir.
Voilà, donc vous appuyez ceux qui ont proposé qu'on arrête et après l'audit, et qu'on voit comment répartir sur de nouvelles bases pour ce genre de projets et aussi tenir compte de cette loi rectificative, hein, parce que bon, la réalité elle est là, on va faire avec, le plan de trésorerie vient d'être publié, ce n'est un secret pour personne, donc il faut vraiment être regardant sur cela. Merci beaucoup Eddy d'avoir appelé de Lubumbashi. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole Omar.
Merci JR, le temps faisant défaut, je m'en vais rapidement. Premièrement, comme l'a dit mon prédécesseur, l'invité doit éviter de faire des déclarations populistes parce qu'il est expert du domaine des dépenses de l'ODEP et c'est prouvé que ça fait aujourd'hui plus de 30 ans, des 30 dernières années, la RDC n'a pu atteindre ses assignations budgétaires pour des raisons qu'il maîtrise mieux, on ne saura pas le répéter. Donc c'est pas une nouveauté, c'est pas une innovation, ça a toujours été comme ça. À la fin de chaque année budgétaire, soit on tombe au déficit, c'est-à-dire les dépenses sont inférieures aux recettes, soit on tombe à l'excédence, les dépenses sont supérieures aux dépenses. Donc on ne puisse pas vilipender le gouvernement de Félix qui, tant soit peu, fait son travail. Par rapport à votre sujet actuel, je voudrais relever ce que vous avez, dès le liminaire de l'émission, relevé. Le budget, comme vous l'avez dit, l'ensemble de ressources de dépenses prévues pour une période précise. C'est ce qui détermine le plan financier d'un État. C'est une loi votée au Parlement. Mais le plan de trésorerie, qui est une mesure d'exécution du budget, est un outil technique du ministre des Finances, qui est l'argentier principal, qui est le trésorier de l'État. En des termes simples, ça veut dire quoi? Parce que ça complique la population. Nulle part le ministre n'a remis en cause les 11 milliards, nulle part il n'a diminué. Mais vous a fait comprendre très cher JR que, avec ce que j'ai comme ressources disponibles, je ne saurais pas atteindre les 11 milliards prévus. C'est comme vous, vous êtes marié, vous remettez à votre femme 100 dollars, vous lui demandez de faire ce nombre de dépenses. Il vous dit, chérie, je ne saurais pas avec ce que tu m'as remis faire. Techniquement, ça vaut son pesant, mais politiquement, quand même, ça paraît comme une certaine impolité au chef de l'État. Donc, les gens, c'est leur pas. Et par rapport à cet état des choses, nous l'avons toujours dit, les ministres nous font savoir que la conjoncture est exacte et avec ce que nous avons comme ressources. Parce que les gens ne doivent pas se leurrer. Les budgets n'est pas un ensemble de sommes liquides exigibles, non. C'est un ensemble de prévisions qui peuvent ou ne pas se réaliser. Les ministres a été clair, peut-être politiquement il a péché. Au lieu de continuer à parler, parce qu'il y a des 100 jours qui doivent finir, un, il faut arrêter de politiser ces débats. De deux, il faut arrêter de compter sur les apports extérieurs. L'invité l'a dit, lorsque le président a osé initier les 100 jours, il a peut-être fait allusion aux apports extérieurs. Il démontre en finances publiques, ces gens ne promettent, ils font toujours des promesses des fois qu'ils ne réalisent pas. De deux, on doit éviter avec les dépenses de prestige. Vous avez parlé de matasse avec les bâtiments intelligents. En économie, il y a ce qu'on appelle les dépenses utiles et les dépenses inutiles. Est-ce que c'est important de faire certaines choses? Et enfin, il faut lutter contre la corruption. Mais par rapport à votre demande, je finis par là. Que faut-il faire par rapport? Faut-il réajuster ou quoi? Moi, je pense, premièrement, il faut appliquer les principes de l'économie qu'on appelle l'accommodation. Je donne un exemple. JR a comme salaire 1000 dollars. Les enfants étudient à l'école belge. Dès que le salaire est ramené à 500 dollars, qu'est-ce que fait JR? Il met les enfants à l'école par rapport à ses ressources. Il est démontré par les ministres des Finances, qui est l'agenté de l'État, qu'on ne saura pas le faire, qu'on adapte ces programmes des 100 jours par rapport aux...
Donc vous êtes d'avis qu'il va falloir, disons, initier une loi rectificative?
Je soutiens, parce que j'y ai, devant les impossibilités, nous ne peut tenir. Mais cette rectification, ces réajustements impliqueraient des conséquences. Premièrement, certains projets ne seront plus réalisables. Il n'y a pas d'argent à faire. Deuxièmement, il faudra soit prioriser les travaux des 100 jours par rapport aux autres besoins de l'État, ou encore les supprimer. Deuxième chose, il faudra établir les mécanismes de contrôle. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'on n'a pas contrôlé, on n'a pas puni. Troisième chose, je pense que cette contradiction des chiffres entre le budget de l'État et les plans de trésorerie a un seul problème, la mobilisation des ressources. Nous l'avons toujours dit, le budget n'est qu'un ensemble de prévisions. Au lieu de faire des débats inutiles à la télé, à la radio, sur Internet, pensez, les politiques, les autorités politiques, la population, les élites doivent réfléchir comment mobiliser les ressources de l'État. Voilà ce qui doit être fait, cher. Je suis d'accord avec le réajustement parce qu'il faut accommoder les recettes par rapport aux besoins en présence. Mais
merci beaucoup.
On va réajuster, ça impliquera beaucoup de conséquences.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir rejoint en partie aussi l'ODEP qui propose le réajustement, c'est-à-dire qu'il réajustera de la loi rectificative. Merci beaucoup, Omar. Alors, Simon, vous êtes à Matadi, on va terminer avec vous et puis conclure avec notre invité. Simon, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs qui suivent la radio Capi. Rapidement, je pense que l'invité devrait éviter le langage que certains réfractaires pessimistes au programme du gouvernement qui a donné l'espoir à tout un peuple. Et ça, l'ODEP, moi je pense que l'ODEP devrait faire voir que les 11 milliards sont possibles à atteindre et à recouvrer, dans ce sens que illusion qu'il devait mettre auprès du gouvernement toutes les techniques ou les moyens nécessaires pour y arriver.
Mais Simon, comment l'ODEP peut se placer dans ces positions? Vous venez de suivre Omar qui dit les tableaux des bords, c'est
un budget de 11 milliards pour l'improvisation dont il est question. Moi je pense que ce n'est pas le terme qu'il fallait employer. Ça, c'est un terme grave lorsqu'on parle de l'improvisation. C'est un programme qui est sorti de la présidence, qui est pétri des experts, d'un gouvernement qui est pétri des experts. Je crois qu'il fallait chercher un autre terme parce que moi j'ai suivi dans notre radio Okapi. Depuis son temps, Okapi avait sorti un document par rapport au programme des 100 jours. Il y avait la programmation, c'est quoi? on donne les chiffres, on donne les ressources pour où on devrait les avoir, on donne la durée et on donne comment les faire, même la date de l'envoi. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à la programmation qui a été faite, au mandat qui a été donné, à la durée qui a été faite, il est temps qu'on fasse l'audition. Parce que nous avons toutes les données.
Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Que le peuple propose plus de solutions parce que les
voilà. Dans son rapport, il a proposé des solutions. Voilà, on va. Merci beaucoup, Simon. On ne sera pas allé plus loin avec vous. Il est temps de conclure avec notre invité, professeur Florimond Mouteba. Oui. Alors, vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
D'abord, je voudrais dire ceci. On ne fait pas du populisme. C'est-à-dire, tous les rapports de l'ODEP, vous les connaissez, vous les avez suivis, vous vous rappelez, en 2018.
J'ai même fait des formations.
Exactement. Mmh. Et alors, nous travaillons sur la base des chiffres de l'État, du ministère du Budget. Jamais nous n'allons chercher ailleurs. Et donc, il a été très difficile d'ailleurs de contredire les chiffres qui sont dans le rapport de l'ODEP, n'est-ce pas? Parce que ça vient du ministère du Budget, ça vient de différentes institutions comme le FPI ou le FONER, là où on est allé prendre le fonds. Donc ça, c'est la première chose. Et que bon, on dit improvisation, c'était un peu fort. Non, c'est l'improvisation. Ce programme était extra-budgétaire. Il a violé la loi cadre sur les finances publiques. Il faut savoir le dire aussi. Et donc, nous faisons le contrôle citoyen. On n'est pas là pour...
Mais les réajustements
Les réajustements, bon, il est évident que... on ne peut pas nous dire, nous, de dire à la population que le budget de 11 milliards est possible. Non, parce que déjà l'argentier national... Le ministre des Finances nous dit,
il ne sait pas mobiliser
son plan,
ça.
Voilà, il sait pas dans son plan de trésorerie, il saura pas, il peut pas mobiliser ça. Nous ne saurons pas mobiliser ça. Donc soyons réalistes, appelons l'Assemblée nationale au mois de mars à relire la loi de finances 2020 et s'inspirer de ces plans de trésorerie pour revoir les budgets. Nous avons fait des calculs au niveau de l'ODEP. Je pense que bon, on arrivera peut-être à un budget de 8 milliards au lieu de 11.
C'est possible,
on pourrait arriver à 8 milliards. Mais parce que là-dedans, évidemment, on n'a pas tenu compte des budgets annexes, des comptes spéciaux, on n'a pas tenu compte de mobilisations sur les ressources extérieures. Et donc, en tenant compte de tout cela, peut-être qu'on peut arriver à un budget de 8 milliards. Mais encore une fois, il faut vraiment mobiliser, il faut boucher les trous partout où il y en a, il faut punir ceux qui font qui gèrent mal, parce que on est d'accord au moins tous là-dessus, ceux qui sont pris la main dans le sac après les audits et après les travaux de la justice, qu'on voit qu'il y ait des sanctions, à la limite même des procès publics, pour donner l'exemple. Pour redonner confiance à la population, qui se disent non, on est quand même en train de punir les gens, et que bon, il faut plus essayer, etc. Il faut donner des exemples. Il faut vraiment donner des exemples. Donc voilà, c'était ça, cela que nous appelons le président de la République, que nous, le président de la République est un nouveau président. Donc, il a encore ce potentiel du fait qu'il bénéficie encore de cette nouveauté. Il peut rectifier le tir. Il a encore 4 ans. Il peut rectifier le tir. Et ce n'est qu'en lui montrant là où ça ne va pas qu'il peut s'inspirer des recommandations qu'on lui donne pour faire des réformes. Parce que vous savez, depuis l'année 2019, qu'on me montre une seule réforme majeure qui a été faite, n'est-ce pas? Qu'il fasse des réformes. Et il a encore le temps. Et donc nous n'avons rien contre lui. Tout ce qu'on essaie, c'est de recommander une meilleure gestion, l'aider à ce qu'il puisse faire des réformes en faveur de notre population.
Professeur Florimond Mouteba, coordonnateur de l'ODEP, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de partager ces 55 minutes interactives avec les auditeurs ici au pays et à l'étranger. Ils sont nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous avez accordé à ces débats. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et la Mégie. À très bientôt.